centre d'expertise, d'évaluation et de certification des matières précieuses et semi-précieuses CEEC en sigle vient de lancer l'opération de lutte contre la fraude en ce qui concerne l'exportation des sous-produits miniers tels que le nickel, l'argent, le palladium et autres, retenant qu'en dehors des métaux majeurs exportés tels que le cuivre et le cobalt, la plupart des sociétés minières ne déclarent pas les sous-produits qui sont pour autant valorisés. Comment le CEEC compte mener cette lutte afin que l'État rentre dans ses droits? Nous aurons toutes les précisions avec Léonide Moupépélé, qui est justement l'ADG du CEEC. Il est là pour nous éclairer sur cette question. Monsieur l'ADG, bonjour.
Bonjour Nicole.
Alors avec vous, on va s'étendre sur cette question qui intéresse énormément les auditeurs de Radio Capi. La lutte contre l'évasion des sous-produits miniers, ce n'est pas une mince affaire. Hein?
Non, ce n'est pas une mince affaire, mais ça fait partie des attributions du CEEC. Vous savez que le CEEC, par décret présidentiel 036, a été créé pour servir d'organe officiel de l'État congolais pour gérer le secteur de matières précieuses et semi-précieuses au Congo. Et donc, dans ses attributions, les sous-produits qui quittent le sol congolais, dans les métaux majeurs que sont le cuivre, le cobalt, mais aussi le zinc et le plomb, c'est essentiellement dans la province du Katanga, parce que ces métaux sont exploités dans cette province. Je disais que ce sous-produit intéresse également le CEEC, parce qu'il s'agit généralement de sous-produits qui sont des matières précieuses et semi-précieuses.
On aura d'autres détails avec vous dans un instant. On nous rappelle encore une fois aux auditeurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission en réagissant justement au 081 070 20 50. Il faut nous envoyer des SMS. Et nous avons également pensé à ceux-là qui souhaitent témoigner, vous qui nous suivez dans le Katanga, puisque ça vous concerne directement, témoigner à un autre numéro, c'est le 081 890 63 94. Nous rappelons encore qu'il ne faut pas biper, mais nous appeler. On a la possibilité de vous rappeler à votre numéro de téléphone. Judy Keshama, vous avez eu justement l'occasion de vous pencher sur cette question. Je crois qu'il est bon quand même de clarifier un peu les choses à nos auditeurs.
Oui.
Certains découvrent pour la première fois le centre d'expertise, d'évaluation et de certificat des matières précieuses. Alors, de quoi s'occupe-t-il exactement, ce centre?
Oui, disons que le centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, c'est en sigle. Disons que c'est l'expert du gouvernement en ce qui concerne les produits miniers. Il fait l'évaluation et l'expertise des substances minérales précieuses et semi-précieuses en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'il donne une valeur monétaire à un bien qui présente une complexité technique. En outre, le CEEC fait l'encadrement des comptoirs, des négociants et fondeurs, la certification et le paiement des taxes à l'exportation, la formation des évaluateurs congolais, la promotion de l'industrie des substances minérales précieuses et semi-précieuses, l'achat et la vente des matières précieuses et semi-précieuses, la lutte contre la fraude, l'application et le suivi du processus de Kimberley et autres programmes similaires. Rappelons que le CEEC a travaillé beaucoup plus dans les domaines du diamant et depuis 1997, il étend ses activités sur les autres produits miniers.
Oui, mais curieusement, on n'a jamais entendu parler du CEEC. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le CEEC existe depuis 1997.
Non, c'est pas depuis 1997, c'est un service qui a toujours existé.
Mm. Et c'est depuis 1997 qu'il a eu à étendre cette activité sur les autres produits miniers.
Bien sûr, il était souvent dans les domaines du diamant. Maintenant, le CEEC s'occupe des autres produits.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le CEEC se réveille subitement pour lancer une opération de lutte contre les produits miniers?
Bon, vous savez, c'est après analyse des colis à l'exportation des trois sociétés minières qui sont sous le contrôle du CEEC depuis 3 ans que les experts ont remarqué qu'en dehors des métaux majeurs, cuivre, cobalt, zinc, il y a des sous-produits que les opérateurs miniers ne déclarent pas. C'est le cas du nickel, l'argent, l'or, le palladium, le platine, le germanium et autres. Et cela constitue un manque à gagner pour le trésor public. À ce sujet, nous vous proposons la réaction de M. Danny Banda, chef de bureau de SAES, CAM, Colouésy, le service qui se charge de l'encadrement, de l'exploitation artisanale et de la petite mine. On l'écoute.
La plupart des produits, que ce soit d'abord les produits tels qu'ils sortent de la carrière, quand on vous parle par exemple d'un minéraire qui s'appelle hétérogénite. Hétérogénite veut dire minerai de cuivre et de cobalt. Et lorsque vous le prenez, vous le testez juste au métorex, déjà à partir de la carrière, vous voyez qu'il y a des sous-produits qui ressortent dans le minerai. Et lorsque le minerai est traité, il y a certains produits qui sont qui partent sous forme de scories, mais il y en a d'autres qui restent dans le minerai. À tel point que lorsqu'on doit passer à l'exportation des bétaux, il y a des sous-produits qui passent et qui ne sont jamais déclarés. Donc à ce moment-là, les bétaux qui passent à l'exportation sont sous-évalués et cela constitue pratiquement un manque à gagner important pour le pays. Et il arrive de fois que dans ces métaux qui passent, partir sous forme d'alliage, il peut y avoir un sous-produit qui est plus important, qui peut être plus important que même l'alliage ou le métal qui part. En ce moment-là, du fait qu'il n'a pas été déclaré au niveau de la frontière, au niveau de l'exportation, en principe, le pays est en train de perdre énormément.
Il y a des sous-produits très importants qui passent et qui ne sont pas déclarés. Nous rappelons ces sous-produits. Nous avons par exemple le nickel, l'argent, l'or, le palladium, le platine, le germanium et d'autres produits dérivés. Mmh. Alors, comment est-ce que les responsables des entreprises minières ont réagi par rapport à cette nouvelle?
Oui, la plupart des opérateurs miniers que nous avons contactés ne voulaient pas s'exprimer à ces sujets. Cependant, nous avons quand même recueilli la réaction de Monsieur Gérard Ntamboué, administrateur de la société minière du Katanga, Somika en sigle. On l'écoute.
Ils ont des agents qui viennent pour le prélèvement des échantillons. Ils procèdent à des analyses. Dès lors qu'il est établi que dans les produits, il y a des produits dérivés, comme vous l'avez dit, il est dans leur droit de pouvoir rétablir l'État dans ses droits. Je ne trouve pas d'inconvénient. Nous travaillons déjà avec le Mossé.
Oui, pourquoi durant toutes ces années, vous n'avez jamais déclaré ces produits dérivés?
Non, en fait, il me concerne, heureusement, il n'y a pas de produits dérivés dedans. Nous avons le cuivre et le cobalt, c'est tout. Vous savez, quand on parle de produits dérivés, donc, il faut se situer dans le contexte d'un exportateur des produits intermédiaires. Alors, il existe toujours un seuil de récupération. Si vous avez, par exemple, un produit où il y a 0,003%, je ne sais pas moi, de nickel ou de quoi, bon, c'est un seuil qui ne peut pas être valorisé. Donc, tout dépend de la concentration du métal concerné dans le produit à l'exportation. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait du nickel ou qu'il y ait ceci ou cela pour parler déjà d'une récupération.
Mais depuis tout ce temps, vous ne l'avez jamais déclaré, même s'il y a une petite quantité.
Non, mais vous déclarez quoi? Parce que vous allez déclarer quelque chose qui n'a pas de valeur. Ou même quelque chose qui n'est pas jusqu'à un certain niveau de détection de laboratoire détectable.
Oui, donc là, c'était le point de vue de Gérard Ntamboué, l'administrateur de la société minière du Katanga Sominka, Sonika en sigle. Nous rappelons encore une fois que si vous souhaitez intervenir dans ce dossier qui vous concerne, la lutte contre l'évasion des sous-produits miniers, vous pouvez aussi le faire au 081 070 20 50. Encore une fois, je dis, nous revenons à notre question.
Oui.
Pourquoi le CEEC se réveille seulement maintenant, alors que la fraude existait depuis le temps?
Vous savez, selon nos sources, la plupart des services spécialisés du ministère des Mines n'étaient pas présents dans les zones minières. Depuis 2005, le CEEC a une antenne à Lubumbashi. Cependant, cette antenne s'occupait plus de l'encadrement des exploitants artisanaux. Il y a quelques jours, une forte délégation de la CEEC revient de Lubumbashi pour installer une direction provinciale. Et cette société va étendre ses représentations partout dans les zones minières du Katanga. Et ainsi, le CEEC pourra avoir les contrôles sur tout cela.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le centre d'expertise d'évaluation et de certification des matières précieuses se réveille, il veut réorganiser les choses. Dans le passé, il fonctionnait un peu en désordre. Aujourd'hui, il se réorganise.
Non, ce n'était pas un désordre. Vous savez, il y a un arrêté ministériel qui a été signé en 2007, par rapport à la commercialisation des produits miniers. C'est ainsi que cet arrêté donne maintenant au CEEC le pouvoir de commencer à travailler et d'étendre ses activités sur les autres produits miniers, parce qu'avant, il s'occupait il ne s'occupait que du diamant.
Oui, bon, puisqu'on a la DG, on va lui donner la parole dans un instant, mais juste une précision.
Oui.
Comment la population réagit-elle par rapport à cette lutte contre la fraude autour des produits dérivés que vient d'initier le centre d'expertise?
Oui, nous avons recueilli les réactions de quelques personnes par rapport à cela. Certaines personnes saluent cette initiative, d'autres pensent qu'il est aujourd'hui difficile de mettre fin à la fraude dans les domaines des matières précieuses. On les écoute.
Je me pose tout d'abord la question de savoir, ils vont le faire comment? Parce que dans ces pillages de métaux ou sinon de matières minérales en République démocratique du Congo, c'est organisé. C'est ceux-là même qui sont censés protéger notre secteur minier qui sont cités comme des prédateurs, comme les profiteurs de tout cet argent. Le CEC est également confronté à un problème d'hommes. Il semble qu'il n'y a pas encore d'hommes capables d'identifier les minerais. Enfin, le CEC est en train de recruter justement des ingénieurs des mines, des géologues, afin de mieux pouvoir combattre la fraude. En ce qui concerne le contrôle des produits dérivés, je ne pense pas que cette opération puisse réussir. C'est une opération qui ouvre tout simplement à un échec. Parce qu'on trouve la même race derrière toutes ces histoires. Les loups ne se mangent pas entre eux.
Attention, dans les colis, il y a des dérivés des minéraux qui peuvent aussi, n'est-ce pas, donner beaucoup d'argent au pays. Alors, je crois que c'est quelque part, on peut dire, il y a une avancée significative. Nous, on tend vers, n'est-ce pas, ce qu'on appelle faire une bonne économie. Eh bien, si vous me faites cette bonne économie, je vous fais une bonne politique.
Voilà, c'était les réactions des auditeurs de Radio Capi. Si vous aussi, vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire au 081-070-2050. Je dis cachement, on peut dire que c'est vrai que les loups ne se mangent pas entre eux, mais bon, on n'a pas à faire de commentaires. On va donner plutôt la parole à notre invité qui est là.
Oui.
Hein, c'est Monsieur Léonide Mopépélé, l'ADG du Centre d'expertise, d'évaluation et de certificat des matières précieuses et semi-précieuses. Il est mieux placé pour répondre à toutes les questions. Merci Jolie Kachama et à la prochaine.
À la prochaine Nicole.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une légende.
Léonide Mopépélé, vous êtes l'ADG du CEEC, autrement dit le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des matières précieuses et semi-précieuses. Vous avez suivi le point qu'on vient de faire avec Jolie Kachama. Il y a beaucoup de gens qui doutent de la réussite de cette opération. Vous y croyez-vous?
Oui, Nicole, les loups ne se mangent pas entre eux. Mais assurez-vous, moi je ne suis pas un loup. Et vous pouvez être tranquille, vous tenir en toute sécurité dans ce studio, parce que vous pouvez avoir l'assurance que je ne vous mangerai pas, quand bien même je serai un loup.
Oui.
Bon, mais pour le reste, je voudrais rassurer notre population qu'il entre dans notre objectif de pouvoir contrôler entièrement les secteurs de matières précieuses et semi-précieuses. Si, je comprends bien les doutes de la population, j'ai suivi quelques interventions, on pense que le CEC n'est peut-être pas outillé pour mener cette lutte, que ce serait peut-être un feu de paille, que la montagne est trop grande par rapport à nos efforts, nous n'arrivons jamais à au bout de ce que nous recherchons.
Ils n'ont pas fait mon tort, hein?
Non, Nicole, rassurez-vous, quand nous nous sommes engagés dans cette bataille, nous savions quels étaient les défis qui nous attendaient et nous nous y sommes préparés. Donc, je voudrais dire à la population qui nous suit maintenant, aux auditeurs de Radio Capi, qu'ils peuvent faire confiance au comité de gestion qui, aujourd'hui, a pris les rênes de CEC en main. Et la lutte que nous avons engagée contre l'évasion des matières précieuses et semi-précieuses dans le Katanga en forme de sous-produits de métaux majeurs, eh bien, ils peuvent être rassurés que nous maintenons cette lutte jusqu'au bout.
Qu'est-ce que vous entendez par sous-produits? Parce que bon, il y a pas mal de gens aussi qui découvrent cette information pour la première fois.
C'est-à-dire, Nicole, lorsque vous regardez les cartes métallogéniques de gisements du Katanga, de Musoshi à Kolwezi, de Dikoloshi à Likasi, tous ces gisements cobaltifères et cuprifères contiennent également des métaux précieux comme l'argent, l'or, le rhodium, le platine, le palladium, etc. Et lorsque on extrait le cuivre et le cobalt, il ne faut pas penser qu'on procède à une exploitation sélective. Je veux dire qu'on ne laisse pas sur place les métaux précieux et semi-précieux qui accompagnent le cuivre et le cobalt. On le prend ensemble. Et c'est ainsi que, lorsque on traite ces métaux, on retrouve également ces métaux précieux et semi-précieux sous forme d'impuretés. Je l'accorde, parce que j'ai suivi tout à l'heure l'intervention du responsable de Somica.
Oui.
C'est effectivement, en métallurgie, puisque c'est la valorisation du cobalt et du cuivre qui est recherché, tout ce qui n'est pas cuivre et cobalt est considéré comme une impureté.
Mmh.
Mais lorsque cette impureté est éliminée sur notre sol, sous forme de scories, comme c'est le cas aujourd'hui avec le fameux terril du Katanga qu'on est en train de retraiter à Lubumbashi, en ce moment-là, ça ne pose pas de problème puisque ces sous-produits, ces impuretés sont éliminées sur notre sol national et ne quittent pas le sol national, donc ça reste chez nous, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant que ces impuretés n'ont pas pu être éliminées dans les phases métallurgiques, dans les phases de traitement que les minéraux ont subi ici chez nous, et que ces impuretés restent
le
produit qui est exporté,
oui,
en ce moment-là, ça devient notre problème.
Mais alors,
parce que ces impuretés qui finiront un jour ou l'autre par être valorisées. C'est-à-dire qu'au moment du raffinage, au moment du traitement final à l'étranger, ces impuretés ne sont pas jetées, elles sont stockées quelque part,
oui,
et finissent par être valorisées.
Mais qu'est-ce qui fait? Parce que, bon, il y a toujours eu fraude, hein, on peut dire ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si, bon, le CEC, qui existe depuis combien d'années déjà?
Le CEC existe depuis 2003.
Depuis 2003.
Je dois dire, bon.
Que vous avez existé, mais que vous n'êtes pas opérationnel.
Non.
on peut dire ça, hein.
Je voudrais dire que le CEC existe depuis 2003 en tant qu'entreprise publique. Mais le CEC a existé avant. Il y a eu l'ancêtre de CEC qu'on appelait CLE, qui est une entreprise qui a existé depuis, je crois, les années 80.
Mmh.
Et puis, je crois, en 2000.
Mais qui n'a pas vraiment parlé de lui.
Je vous l'accorde.
On insiste quand même. Hein,
je vous l'accorde, oui, Nicole. Oui. C'est-à-dire que le CEC, ou son ancêtre, le CNE, et un peu plus tard les CEC, du moins dans ces premières années, s'est focalisé totalement sur les diamants et a négligé le reste. C'était peut-être parce que c'était les premiers pas. Tout à l'heure, il y a un auditeur, je l'ai suivi, qui a fait allusion au problème de compétences. C'est vrai que tout le personnel du CEC, jusqu'à ce jour, a été recruté dans l'optique de pouvoir travailler dans la filière diamant.
On espère qu'ils vont bien travailler, mais en attendant, Monsieur Léonide Mopepele,
ouais,
puisque vous avez décidé de restructurer les choses, est-ce que vous avez du matériel efficace pour faire ce travail d'expertise?
Nicole, nous sommes en train de nous équiper. En ce qui concerne le Katanga particulièrement, parce que nous ne sommes pas présents qu'au Katanga, nous sommes présents également dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, dans le Maniema, etc. Nous allons en parler peut-être plus tard. En ce qui concerne le Katanga, puisque vous parlez d'équipement, nous sommes en train de faire venir un spectromètre qui va équiper notre labo, parce que nous allons avoir un labo dans le Katanga. Ce spectromètre va venir de la Chine. Il sera là dans, allez, mettons, 20 jours. Et ce spectromètre a pour particularité, pour rôle de pouvoir détecter la présence du germanium et donner également une teneur sur le germanium. Donc, nous allons avoir un spectromètre qui va nous permettre de détecter et d'analyser le germanium. Et vous savez que dans le fameux terril de Lubumbashi que Gétel Estelle est en train de retraiter maintenant, il y a du germanium. Et il y a eu tout un débat dans la presse. au sujet de ces germaniums qui n'étaient pas déclarés. Donc, nous allons avoir désormais un spectromètre.
De la Chine. Et non de l'Afrique du Sud, parce que nous savons qu'il y avait des rapports avec l'Afrique du Sud, hein, dans ce sens.
Bon, pour l'instant, nous avons fait notre commande de la Chine. Moi-même, j'ai été en Chine dernièrement, donc j'ai pu voir les spectromètres. J'ai discuté, il y aura une équipe des Chinois qui va descendre pour installer ces spectromètres. Former les Congolais pour travailler sur cette...
On peut dire que le partenariat entre la Chine et la RDC se porte bien. Hein?
Je ne sais pas s'il faut inscrire ça dans ce cadre général du partenariat dont on parle aujourd'hui dans le cadre des cinq chantiers, etc. Mais là, nous avions mené une démarche, je dirais, plutôt particulière. Mais si cela peut s'inscrire dans ce cadre-là, nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais pour l'instant, Nicole, je voudrais insister sur le fait que il y aura ce spectromètre et que désormais, tout ce qu'il y a comme germanium dans le sous-sol katangais qui pourrait quitter en termes de sous-produits dans les métaux majeurs comme le cuivre, le cobalt, le zinc, sera détecté. Ça, je voudrais donner cette assurance à la population.
Un matériel efficace, un personnel qualifié.
Il n'y a pas que le germanium.
Oui.
Il y a le reste. Et nous avons commandé des États-Unis un spectromètre de très haute sensibilité, donc de très grande précision, qui nous permettra de mesurer au ppm, c'est-à-dire partie par millionième.
Oui.
Tout ce qu'il y a comme ce qu'on appelle trace, c'est-à-dire les teneurs qui sont extrêmement faibles, comme le disait tout à l'heure le monsieur de Sonica,
oui.
Parce qu'il dit que chez lui, il n'y a que du cuivre et du cobalt, qu'il n'y a jamais eu de métaux précieux.
Oui, il a affirmé, hein.
Ben, il a affirmé, nous allons le voir, parce que nous avons pris quelques petits échantillons tests au sein de 5 lots qui étaient en exportation.
Vous avez détecté quelques couleurs ?
Nous avons découvert qu'il y avait, par exemple, 3,81% de nickel dans un lot de cuivre. Eh bien, Nicole, normalement, si ces messieurs avaient su, ou peut-être qu'ils le savaient, qu'il y avait 3,82% de nickel dans son lot qui était en exportation, au prix où coûte le nickel aujourd'hui, au lieu d'exporter ce lot pour du cuivre, il aurait pu l'exporter pour du nickel.
Vous pensez qu'ils n'étaient pas informés ?
Justement, c'est là le débat. Il y a des gens qui sont conscients de ce qu'ils font.
Mais d'autres,
donc,
c'est possible que d'autres ne soient pas informés.
Il est bien possible qu'il y ait des gens qui ne se braquent que sur les objectifs de leur contrat de commerce.
Donc, ils exportent finalement très mal.
Ils exportent très mal. Ça, j'en conviens. Mais nous sommes, je voudrais aussi insister, et ça, c'est un problème très important. On ne doit pas jeter seulement la pierre au CEC pour n'avoir pas fait son travail. Nous sommes dans un système déclaratif. C'est-à-dire, il appartient à l'exportateur de déclarer le contenu de son
colis. Oui, parce que nous avons d'ailleurs la réaction d'un auditeur, hein, Pascal, qui est à Colésie, qui veut réagir par rapport à ce sujet.
Je suis personnellement assez stupéfait parce que dans notre pays, chaque fois qu'on multiplie les institutions, eh bien, on multiplie les places des gens qui s'enrichissent. Et tous ceux qui se font recruter là-bas, parce que moi je suis sur le terrain, ce sont des gens, en fait, qui sont contents parce que finalement ils feront un poste où ils vont se faire de l'argent. Et moi je suis sûr, la lutte qu'il faudra commencer dans notre pays, c'est d'abord lutter contre la corruption. Parce que les opérateurs miniers qui sont en Colombie, en entendant toutes ces choses, ils n'ont même pas peur parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer ces gens. Et ces gens, c'est vrai qu'ils vont voir les sous-produits qui sont là-dedans, eh bien, ils prendront de l'argent et vont se taire là-dessus. Et donc, personnellement, je ne vois pas ce qu'on fait dans ce pays. Si on va continuer à créer des classes de gens qui s'enrichissent au détriment de la majorité de la population, eh bien, ça nous énerve. Ça. Parce que le trésor public ne recevra pas cet argent. Et c'est sûr. Ce qui se passe à Kasumbalé, depuis Kasumbalé, c'est jusque sur le terrain ici, on connaît. Et nous sommes habitués. Nous sommes habitués de choses. Nous sommes des opérateurs miniers de longue date. On connaît. Et donc, il faut être une fois honnête pour accepter que l'argent rentre directement au trésor public. Et tous ces gens qui parlent de ces choses, moi je sais, je connais, donc je suis vraiment déçu personnellement, c'est la petite réaction que je voulais faire.
Voilà, donc là, c'était la petite réaction, comme il a dit lui-même, de cet auditeur de Colésie. Pascal, merci d'avoir réagi au 081-890-6394. Si vous aussi, vous souhaitez nous appeler pour témoigner comme Pascal, faites-le donc. Nous avons la possibilité de vous rappeler. Donc, il ne faut pas habiter l'auditeur de Radio Capi. Alors, on revient à vous, Léonide Montpépélé. Malgré le personnel qualifié formé par les Chinois, malgré le matériel efficace qui viendra des États-Unis, on craint qu'il y ait la corruption, hein. Vous êtes conscient de cela?
Oui, je suis en train de suivre Pascal tout à l'heure. Je crois que je comprends un peu son sentiment, le défaitisme, parce que c'est vrai que le mal congolais est à ce point que lorsqu'il y a de bonnes volontés qui s'expriment, tout de suite on pense qu'elles ne seront pas en mesure de pouvoir triompher de ce mal. Je voudrais dire tout de même à Pascal que, et tout à l'heure j'ai demandé un peu de confiance. Nous aurions pu, le nouveau comité de gestion aurait pu s'éteindre, ne rien faire, croiser les bras. Mais si aujourd'hui nous nous sommes engagés dans cette lutte, c'est parce que nous croyons que nous allons y arriver. Nous avons inscrit ce point dans la filière métaux précieux et semi-précieux sous-produits de métaux majeurs dans notre plan d'action, ce n'est pas le seul point. Nous avons, par exemple, inscrit dans notre plan d'action la valorisation de la cassitérite, du coltan et de la wolfenite, qui sont les trois produits qui sont essentiellement exploités dans les mines de l'Est. Eh bien, aujourd'hui, dans ce secteur-là, l'ordre a été remis. Donc, si nous avons réussi dans ce secteur, parce qu'il y avait dans ce secteur-là sous-déclaration, sous-évaluation, et donc manque à gagner pour l'État. Et nous avons effectué, avec d'ailleurs le ministre des Mines, au mois de février, je pense, une mission à Goma et à Bukavu, et il en est ressorti un certain nombre de mesures qui nous ont permis de mieux encadrer ce secteur. Donc là, c'est un résultat. Je dois dire que sur le plan, par exemple, de finances, nous avons pu ainsi multiplier par 3 la valeur de nos exportations de l'Est. Alors, maintenant, nous sommes sur le terrain.
Donc, ça vous a rapporté finalement, hein?
Pas seulement à nous, ça rapporte d'abord pour les trésors publics.
On peut savoir à peu près combien?
Ben, ça a été multiplié par 3. C'est-à-dire que là où, par exemple, je dois vous donner, en ce qui concerne la cassitérite, je m'en tiens à cet exemple-là.
Oui.
En 2007, la valeur d'exportation de la cassitérite, c'était autour de 44 millions de dollars pour 14 000 tonnes exportées. Eh bien, cette année, nous pensons que, au lieu de 44 millions de dollars, ça sera autour de 150 millions de dollars. Nous allons exporter la même quantité, peut-être entre 14 et 15 000 tonnes, mais pour une valeur, au lieu de 44 millions, ça sera plutôt pour une valeur de 150 millions. Et donc, il y aura des retombées. Et nous pouvons donner quelques exemples pour les
fonds. Il y aura des retombées.
Il y aura des retombées, bien sûr, sur le plan du trésor public, parce qu'il y a des taxes, il y a des impôts qui sont liés à ces genres d'opérations. Mais il y a là un flux financier qui circule à l'intérieur du pays, un flux financier qui est évidemment, qui vient revigorer l'économie du pays, mais les trésors publics bénéficient de ces flux financiers à travers des services.
Oui, monsieur l'ADG, par rapport à ce que vous dites, où pourrions-nous placer cette opération que vous venez d'énoncer par rapport au processus de Kimberley?
Oui, le processus de Kimberley, c'est un processus de certification qui a été mis en place dans la filière diamant. C'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait de personnes qui puissent profiter du diamant de sang, comme on appelait ça, c'est-à-dire de diamants qu'on tirerait dans des régions en conflit et qui viendraient ainsi alimenter, dont les recettes viendraient ainsi alimenter le conflit. Et pour éviter aussi ce qu'on appelle les capitaux crapuleux, c'est-à-dire de l'argent venu des origines peu recommandables, et qui viendrait, par exemple, alimenter les réseaux de terrorisme. Eh bien, on a mis en place un processus qu'on appelait le processus de Kimberley, qui réunit et les acheteurs et les producteurs ensemble et qui font qu'aujourd'hui, dans ce secteur, vous ne pouvez
pas. Ça n'a plutôt pas bien marché dans notre pays.
Ailleurs, oui, mais pas. Globalement, non, JR. Je pense que là, vous vous trompez parce que si vous regardez les statistiques avant l'instauration du processus de Kimberley, dans ce pays, lorsqu'on faisait 25 millions de dollars d'exportation de diamants, on se frottait les mains, on considérait que c'était, on avait fait une bonne opération. Alors qu'aujourd'hui, quand vous regardez les statistiques du CEC, c'est quand on a exporté pour 50 millions, on considère que ce n'est pas des performances. Donc, après le processus de Kimberley, il y a eu un boom. Nos exportations ont été multipliées au moins par deux. Bon, je vous accorde que ce n'est pas le processus de Kimberley qui va mettre fin totalement à la fraude, puisqu'il existe, nous avons découvert aujourd'hui qu'il y a un réseau sur Dubaï notamment, mais aussi sur Anvers et sur l'Afrique du Sud, où il y a du diamant qui quitte le pays pour alimenter ces marchés-là en fraude. Mais d'une manière générale, disons que le processus de Kimberley a permis de mettre un frein à la fraude. Mais je voudrais répondre totalement à votre question, JR. C'est que ce processus de Kimberley doit être étendu sur tous les domaines. Nous avons reçu dernièrement, nous sommes en programme avec la coopération allemande en ce qui concerne la filière cassitérite, coltan et wolframite. Là aussi, nous sommes en train de mettre en place une sorte de processus
avec la sécurité à l'Est.
En dépit de cette insécurité, l'État existe, nous sommes là, nous sommes à Goma, nous sommes à Bukavu, nous sommes aussi à Kindu. Donc, de ce point de vue-là, nos exportations qui sont faites à partir de l'Est, lorsque ça comme point de départ Kindu, Bukavu ou Goma, vous pouvez être sûr que tout ça est compris.
Juste une précision, vous dites que vous êtes à Goma, Bukavu, Kindu et même dans le Katanga, vos services sont là, mais est-ce que vos services sont aussi bien équipés partout?
J'étais en train de répondre, Nicole.
Oui.
En ce qui concerne Goma, Bukavu, nous sommes suffisamment équipés. Pour l'instant, le travail se fait correctement. Je veux dire le travail d'évaluation, d'expertise et de certification. Ça se fait correctement. Il n'y a pas un lot de cassitérite, de coltan ou de wolframite qui quitte l'est du pays sans être accompagné d'un certificat d'origine. C'est quoi ça, les certificats d'origine? Eh bien, c'est ce document qui peut attester à l'extérieur qu'il y a eu un contrôle sur les teneurs de ces minéraux, qu'il y a eu une expertise officielle qui a été faite, et que tous les droits de l'État congolais ont été payés, et qu'ensuite, l'origine, c'est-à-dire la traçabilité, comme on dit, c'est le mot qui est à la mode, hein, c'est l'histoire, l'historique, les CV, si vous voulez, de cette exportation est connue. On sait d'où ça vient, où est-ce que ça transitait et où ça part. Donc, c'est ça le certificat de Kimberley. Donc, je vais dire les certificats d'origine. Donc, en ce qui concerne l'est du pays, le certificat d'origine est systématiquement accordé à toutes nos exportations. Maintenant, pour le Katanga, il y a eu un test qui a été fait depuis 2007 sur trois sociétés, Sonica entre autres, GTL, mais ce test ne portait que sur les certificats d'origine en ce sens que on s'attachait à la traçabilité de l'exportation sans pour autant entrer dans les sous-produits. Donc maintenant là, nous allons systématiquement, en plus...
Oui, mais l'inquiétude de certains observateurs, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui ont signé un protocole, disons, qui travaillent en joint venture, et là, clairement, ça constituera un obstacle pour votre opération.
Je ne comprends pas en quoi est-ce qu'une joint venture pourrait nous empêcher de pouvoir travailler. Que ce soit une joint venture avec la GKMIN, que ce soit d'abord la GKMIN.
La GKMIN est censée contrôler l'entreprise avec laquelle
la GKMIN.
Donc là, votre opération n'a pas sa raison d'être.
Mais la GKMIN, c'est une entreprise. Une entreprise publique, bien sûr, mais une entreprise d'exploitation minière. Et donc, même les produits de la GECAMINE sont censés être contrôlés par le CEC, en tout cas en ce qui concerne les sous-produits en termes de métaux précieux et semi-précieux qui quittent le Katanga. Donc, quand nous allons commencer cette opération, parce que je vous ai dit que l'opération jusqu'à présent était circonscrite sur trois sociétés, Somika, GTL, plus une petite société qui exploite les pierres précieuses au niveau de Lumbashi, qui s'appelle Anemol.
Apparemment, ce sont de petites entreprises qui exploitent les minéraux.
Somika, c'est une grosse boîte, allez, disons, pas une grosse, mais de taille moyenne. Mais justement, je vous ai dit que c'était un test. Ces trois entreprises avaient été choisies avant notre arrivée.
Voilà. Nous sommes
là. Le comité des gestion actuel est installé là depuis le 18 janvier. Et nous avons été au Katanga deux fois. Il y a, allez, disons, globalement trois délégations qui se sont suivies au Katanga. Moi-même, j'en ai conduit deux. L'administrateur directeur technique en a conduit une. Nous sommes en train de mettre en place un processus qui va prendre le contrôle de toutes les 46 sociétés d'exploitation minière et électrique, plus les 100 unités de traitement, ce qu'on appelle
les unités de traitement. Qu'est-ce que vous demandez à tous ces observateurs qui pensent que, disons, pour la réussite de votre opération, il faut quand même, disons, une usine de raffinage de matières premières dans notre pays, afin de courber cette situation?
Ça, c'est un autre débat à agir. C'est vrai que ce serait l'idéal d'avoir, en finale, une unité de raffinage qui nous permet de donner une plus-value à notre production.
Au niveau du CEC, par exemple.
Non, le CEC, ça ne fait pas partie de sa vocation. C'est vrai que dans les missions du CEC, nous avons le devoir d'assurer la promotion de l'industrie de matières précieuses et semi-précieuses. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est probablement encourager. Et nous sommes en pourparlers en ce qui concerne notamment l'Est, puisque nous en avons parlé, en ce qui concerne l'Est du pays, pour la cassité, le coltan et la haute famille. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons accompagner la SAKIMA, qui est en fait la patronne, qui est le détenteur principal des titres miniers sur lesquels l'exploitation de ces matières se font maintenant. Eh bien, nous sommes en train de voir comment, avec elle, nous pouvons construire à Kaina, à Bukavu, une fonderie d'État qui permettrait, au lieu d'exporter de la cassitérite, mais de pouvoir produire de l'étain sur place. Et nous sommes en train de voir plus loin encore pour que la wolframite et éventuellement le coltan puissent être traités à Kinshasa, parce que nous avons la possibilité de faire transporter cette production par les voies nationales.
Est-ce que l'OCC est impliqué dans cette démarche?
L'OCC, c'est un partenaire avec lequel nous fonctionnons. En ce qui concerne les matières précieuses et semi-précieuses, l'OCC, en sa qualité d'agent de l'État qui confère la conformité la qualité, qui contrôle la conformité et la qualité des produits en exportation comme aussi des produits en importation, est toujours à nos côtés. Quand vous venez dans la salle technique...
Il n'y aura pas de télescopage?
Non, eux s'occupent de minéraux majeurs, je veux dire de métaux majeurs, en ce qui concerne le Katanga. Nous nous occupons rien que de métaux précieux et semi-précieux. Mais à ce titre, l'OCC étant l'agent qui donne, si vous voulez, les certificats de conformité, est appelé à travailler avec nous. Donc nous travaillons avec eux. En ce qui concerne les matières précieuses et semi-précieuses, nous sommes l'organe principal, eux, ils nous accompagnent, et donc il n'y a pas de télescopage, au contraire, nous travaillons ensemble.
Oui, monsieur la DG, il y a beaucoup de questions qui nous arrivent, c'est pour dire que vous êtes très suivi partout au Congo. Alors, la première question que nous vous posons est celle de savoir, qu'en est-il de l'accord qu'il y a eu entre l'Afrique du Sud et la RDC, en ce qui vous concerne, parce que, d'après certains, il y a des trieurs qui devraient être formés en Afrique du Sud, alors qu'en est-il exactement aujourd'hui?
Les trieurs, ce n'est pas la préoccupation principale de ce comité de gestion. Ça, je réponds de manière très vive. Parce que, précisément, c'est cette façon d'orienter le CEC sur les diamants, qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'occuper tout l'espace qui nous a été donné, on ne s'est focalisé que sur les diamants. Ma préoccupation principale en ce moment, c'est d'abord d'occuper les terrains qui n'est pas encore occupés. Nicole, je vais vous dire que, par exemple, pour l'or, nous n'en avons pas parlé. Vous savez que notre pays produit de 10 à 30 tonnes d'or en artisanat. Et que de ces 10 à 30 tonnes d'or, tout va en fraude. Le CEC en 2007 n'a déclaré que 122 kilos d'or. Le CEC, c'est l'organe officiel qui contrôle ce secteur. Donc, si on a déclaré 122 kilos d'or, ça signifie que tout le reste est parti en fraude. Le Burundi déclare une tonne d'or par mois. Le Burundi, qui n'a pas le moindre gisement d'or.
Oui.
Ça signifie que c'est de l'or qui vient de chez
le Rwanda.
Le Rwanda, je ne cite pas parce que je n'ai pas les chiffres officiels, mais je connais les chiffres officiels de l'Ouganda, qui fait 20 tonnes d'or par an. Donc, ça signifie que l'Ouganda fait 20 tonnes d'or, donc 80 à 90% viennent de chez nous. Le Burundi fait 12 tonnes d'or, dont l'essentiel vient de chez nous. Et maintenant, vous êtes en train de m'apprendre que le Rwanda fait pareil. Ça signifie que aujourd'hui, le vrai défi n'est pas d'aller former des trieurs pour les diamants. Le vrai défi, c'est d'abord de contrôler les secteurs qui ne sont pas encore maîtrisé par lui.
Donc, trop et là, la réalité est suffisamment trompée, il y a eu beaucoup de fraudeurs.
Exactement, comme c'est le genre de personnes qui veulent créer de la distraction en voulant nous orienter vers la formation des trieurs. C'est vrai, la formation fait partie de nos objectifs. Mais ce n'est pas ça l'urgence.
Ce n'est pas prioritaire.
Ce n'est pas notre
priorité. Alors, M. Ladégé, il y a d'autres questions qui nous arrivent parce que, vous savez, la population aimerait avoir des précisions sur tout ce que vous êtes en train de nous dire ici. Il y a un auditeur qui nous dit, je voulais un peu demander à l'ADG comment il s'organise pour éviter cette fraude avec toutes ces matières précieuses, même avec ces gens qui sont formés ou qui sont déjà formés. Ça serait vraiment difficile, surtout qu'il y a certains qui se sont déjà organisés en circuit.
Donc les gens sont un peu sceptiques
oui,
par rapport à ça.
Vous êtes suffisamment outillés. Le grand danger, c'est que certains qui sont là pour contrôler arrivent à se faire corrompre compte tenu du fait qu'il y a un grand circuit.
Écoutez, je dois dire sincèrement, ça fait une centaine de jours que nous avons pris les rênes du CEC, que le nouveau comité a été placé là. Et je dois dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas rencontré d'obstacles. Nous avons bénéficié de l'appui total de notre tutelle technique, j'en dirais autant de notre tutelle administrative, et partout où nous avons été, nous n'avons bénéficié que de la collaboration. C'est vrai qu'il y a certainement des gens qui ne sont pas contents. Nous l'avons remarqué de temps en temps. Par leurs attitudes.
Les opérateurs miniers,
aujourd'hui à Bukavu, vous avez des gens qui se sont organisés pour faire en sorte que la formule que nous avons mise au point pour faire le calcul correct du prix des ventes à l'exportation de la cassiterite, du coltan et de la wolframite soit sabotée, qu'on puisse revenir sur les anciennes méthodes. Et moi, j'ai dit au directeur provincial du CEC à Bukavu, il maintient la formule. Celui qui n'est pas content, il garde sa production là-bas. De toutes les façons, Nicole, nous ne sommes pas... Si on ne veut pas exporter cette capacité, mais on laisse ça là. Mais si on veut l'exporter, il faut que l'État congolais...
Mais il faut reconnaître, M. Ladégé, que hier, il y avait certains produits qui semblaient ne pas avoir autant d'importance que le cuivre ou le cobalt. Cassiterite, on en parle de plus en plus maintenant.
Qu'en est-il de la filière semi-précieuse? Il y a l'émeraude, il y a les quartz, qui sont très recherchés d'ailleurs, sous d'autres cieux.
Oui, merci beaucoup, J.R. En fait, vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps. Si on devait parler... du CEC, ou d'une manière générale de substances précieuses et semi-précieuses, à l'espace d'une émission, on n'est pas en mesure de pouvoir tout couvrir. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, en ce qui concerne les pierres de couleur, c'est comme vous appelez vous les pierres précieuses, parce que les diamants, c'est aussi les pierres précieuses. Donc, il y a les pierres semi-précieuses, donc les pierres de couleur. C'est comme la citrine,
l'émeraude,
mais aussi la métisse, Le quartz, c'est ce qu'on appelle, parce que le quartz pur oui. n'est pas très intéressant.
Le quartz, bon, les colons, quartz on
il, faut que, il faut qu'il soit coloré. Quand il est coloré, il prend la forme de l'acétine ou de l'améthyste. En ce moment, il est intéressant. Mais il y a aussi la tourmaline, le topaz, les zircons, etc. Donc, tout ça, ce sont des pierres de couleur qui sont exploitées chez nous et qui sont exportées de manière anarchique parce que cette filière-là n'est pas organisée. Nous sommes en train de prendre... Vous avez vu, dernièrement, j'ai fait passer dans les journaux de la place un communiqué pour le recrutement des géologues. Eh bien, nous allons prendre des géologues que nous allons envoyer au Madagascar pour être formés. Vous avez parlé tout à l'heure de la formation en école.
Mmh.
Ils seront formés pour devenir des gémologues, c'est-à-dire des gens qui seront capables non seulement de pouvoir détecter les pierres de couleur, mais de, également de leur donner une valeur.
Ça va venir, ça c'est pas encore maintenant.
Ben, ce n'est pas encore maintenant parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps.
Oui. Hein, vous avez parlé des gémologues.
Nous avons déjà ouvert pas mal de fonds
oui.
sur le dans le Katanga où nous sommes en train de.
Vous êtes plus au Katanga, hein, parce qu'il y a un désordre, on dirait.
Au Katanga. Nous avons, je vous ai dit que nous avions commencé par l'est du pays.
Il y a trop Thomas, de Katanga. Oui.
Nous n'avons pas fait beaucoup de bruit à cette époque-là, parce que nous estimions que ce n'était pas encore le moment. Aujourd'hui, nous sommes au Katanga, compte tenu de l'ampleur de l'action que nous sommes en train de mener là-bas, et aussi parce que nous ne sommes que des mandataires. Le mandant, c'est qui? Mais c'est vous, Nicole.
Il y a beaucoup de gens.
De voir, de pouvoir informer.
Monsieur Adégé, les auditeurs, puisque vous parlez du Katanga, du Katanga aussi, ils ne manquent pas de réagir. Ils vous font des propositions. Il y a un auditeur depuis Colésie qui nous dit il y a trop d'uranium qui part sous forme d'hétérogénite. Ça, c'est pour votre information. Mukasa depuis le Lubumbashi qui dit il faut engager des gens qualifiés hein, pour ces tests des échantillons venant des usines. Exemple, donne un exemple, il cite notamment la GTL qui ne paye pas pour le germanium très utile dans le cellulaire. Ça, c'est Mukasa de Paul Bombashi qui vous informe. Nous avons également Pierre depuis Colosie qui vous suit et qui a donné un témoignage. Suivez.
Le problème des commissions qu'on peut créer, ça ne cause pas de problème. Le grand problème, c'est quoi? C'est que les autorités de notre pays tournent ensemble avec les entreprises qui investissent chez nous. Bon, s'ils peuvent enlever la main dans des entreprises, comme ça, ça sera bien contrôlé. Autant ils n'enlèvent pas la main, ça sera toujours flou. Même les commissions qu'on peut créer, ça ne va pas normalement bien tourner à cause de cela. Nous le savons tous, nous sommes en train de les dévoiler. Alors c'est un problème très sérieux. Ils doivent d'abord enlever la main dans des entreprises, comme ça va tourner normalement. C'était ça le point de vue.
Voilà, une autre proposition, enlever les mains dans des entreprises. Vous avez compris un peu la nuance, hein, monsieur l'ADG, hein.
Ouais. Je voudrais vous dire, Nicole, qu'il y a certainement des autorités qui sont intéressées dans les capitaux sociaux de la plupart de ces entreprises.
Ouais.
Mais il faut savoir que ce sont des entreprises généralement qui ont une personnalité juridique. Et donc, qu'il ne faut pas confondre les personnalités avec les entreprises. Les entreprises ont une personnalité juridique, et donc, en tant qu'entreprise, c'est avec elles que nous travaillons. Ce n'est pas avec les personnes qui sont actionnaires.
Vous avez 46 entreprises.
Il y en a 46, exactement, aujourd'hui, qu'on peut classer dans la catégorie industrielle. Parce qu'il y a aussi une centaine de ce qu'on appelle là-bas entités de traitement qui en fait sont des petits fours hein, qu'on retrouve à Colouisi, à Likassi, généralement dans des endroits où on ne voudrait pas les voir.
Mais qui travaillent bien aussi, ces petits
fours. Oui, mais qui produisent effectivement.
Mais vous les avez pas ciblés.
Ils sont ciblés. Donc, tout le monde est concerné. Mais, Nicole, je vous ai dit que j'étais deux fois au Katanga à la tête d'une de forte délégation du CEC et nous avons rencontré ces opérateurs économiques. Nous leur avons dit qu'à partir d'un certain moment, et ce sera le 15 mai, à partir du 15 mai, pas un lot ne quitte le Katanga, que ce soit du cuivre en concentré ou en lingot ou encore en cathode. Que ce soit du cobalt, que ce soit du zinc, du plomb, pas un lot ne quitte le Katanga sans certificat d'origine du CEE.
On va voir comment ça se passe. Une dernière réaction qui nous arrive. Rapidement, Julien, on peut l'écouter. Hein?
Mais je vois qu'il y avait des anciens remblés de la Chétanie. Des anciens remblés de la Chétanie, il y avait beaucoup d'uranium. Alors, il y avait une société, là, une entreprise là, qui achetait des pierres en Colombie, qui était l'entreprise Bazanou, les groupes Bazanou. Et ce groupe-là n'acceptait jamais les produits venant des remblés contenant d'uranium de la Chétanie. Et alors, les Chinois sont venus, elles prenaient ça. Maintenant, ils prennent ça jusque-là, jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je me demande comment est-ce qu'ils arrivent à passer la frontière avec des minerais radiés là. J'aimerais un peu savoir comment est-ce que le gouvernement s'occupe de ces minerais contenant l'uranium qui passent la frontière chaque jour.
On a encore une autre information qui peut vous intéresser, hein, monsieur la DG. Vous avez du temps sur la prochaine.
Je suis resté un peu silencieux en ce qui concerne l'uranium. L'uranium,
oui.
C'est vrai que c'est un métal qui pourrait être classé dans les métaux précieux compte tenu de son importance, mais dans notre pays, c'est plutôt un métal stratégique. C'est une substance stratégique. Et de ce point de vue, nous, le CEC, nous n'avons pas dans notre mission le pouvoir, la prérogative de pouvoir contrôler ces secteurs. Je dois dire qu'il y a toute une série de dispositifs qui sont pris au niveau du Katanga, et d'une manière générale au niveau de notre pays, pour contrôler les minerais qui sortent. Je voudrais rassurer les auditeurs qu'il n'est pas facile de pouvoir sortir avec du minerai d'uranium de notre pays. Pour plusieurs raisons. La première est que le gouvernement n'a aucun intérêt à laisser exploiter et exporter de manière anarchique l'uranium. L'uranium, c'est un produit qui est très surveillé sur le plan mondial. Et si jamais aujourd'hui il y avait un lot d'uranium qui était exploité, je vais dire des minerais d'uranium, parce que nous n'avons pas.
Mais pourtant, vous savez qu'il y a eu cette affaire d'uranium qu'on a retrouvé près d'une rivière dans le Katanga, vous êtes informé.
Oui.
Ça a fait couler beaucoup d'encre de salive.
Oui,
il n'y a jamais eu de suite jusqu'à ce jour. Hein.
Non, c'est. Bon, l'uranium, je voudrais dire, si vous me parlez des minerais d'uranium, je suis d'accord. Mais pas l'uranium, parce que nous n'avons pas dans notre pays les structures requises pour pouvoir traiter les minerais d'uranium et extraire l'uranium. Donc, si on a retrouvé du minerai d'uranium quelque part, c'est normal. Lorsque les exploitants artisanaux dans le Katanga vont rechercher les pyrogénites, vous en avez parlé, et d'une manière générale le minerai du cuivre, il se peut qu'ils tombent sur des minerais du cuivre uranifères. Puisque je vous ai dit que dans le Katanga, vous avez en sous-produit toute une série de substances. Donc c'est normal qu'on puisse tomber sur du minerai qui serait uranifère. Probablement que dans leur but premier, ils recherchaient le cuivre ou le cobalt, mais ils sont tombés sur un minerai qui avait une trop haute concentration d'uranium. À ce moment-là, ils s'en débarrassent parce qu'ils savent que s'ils doivent aller à la frontière, ils auront le
problème. On va poursuivre avec vous, monsieur la DG. Hein, nous rappelons encore que vous êtes la DG de CEC, Léonie de Montpellier, dans un instant. Le temps pour nous de suivre le flash info. Les réactions continuent à arriver au 081-890-6394.
Oui, je voudrais dire à monsieur Montpellier qui est là-bas que à Kalima ici, on exploite la cassiterite. À Pugna, on exploite la cassiterite. À Caïlo, on exploite la wolframite et le cobalt, et, disons le coltan. Et tous ces minéraux passent par Goma. Et ça va dans des pays environnants, sans qu'il y ait contrôle de ces hommes qui sont en train de prétendre là-bas.
Voilà, donc la fraude est vraiment immense. Monsieur Lavigé, juste une conclusion.
Oui, je voudrais d'abord répondre rapidement à ce monsieur de qui a parlé à partir de quoi du
Pugna.
Je voudrais dire que d'abord, je suis un ancien de Somenki et que je connais très bien la région, que j'ai travaillé pendant 17 ans dans les mines de cassitérite, de coltan et de wolframite, et que les localités qu'il est en train de citer, Kailo, Pugna, etc., je les connais bien pour les avoir fréquenté, puisque j'étais pendant très très longtemps là-bas. Je voudrais le rassurer que si aujourd'hui il va à Bukavu et à Goma, il va trouver qu'il y a des antennes CEC qui sont placées là-bas et qu'il n'y a pas un seul lot de cassiterites de coltan ou de wolframite qui quitte les circuits officiels de notre pays sans avoir sans être contrôlé par le CEC. Je veux bien l'accorder qu'il y a certainement des fraudeurs, des gens qui utilisent des voies détournées. Il existe bien sûr des structures pour lutter contre cette fraude. Je voudrais quand même rappeler à son attention que de 2003 à 2007, en 2006, les exportations des cassitérites de notre pays s'est situées autour de 2500 tonnes. Et que en 2007, le ministère des Mines a mené une action d'envergure à l'est du pays et cela a eu pour résultat de multiplier par 7 les déclarations d'exportation de notre pays. Donc, il ne faut pas que, aujourd'hui, les gens pensent que, parce que dans le passé, il n'y a pas eu des gens, il n'y a pas eu d'action pour pouvoir lutter contre la fraude, que cela va continuer. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est pour celui
qui a parlé. C'est là votre dernier mot, monsieur Leonid, vous préparez. Je vous l'ai dit, on ne peut pas s'éterniser ici dans ce studio. On va s'arrêter là. On aura à faire le suivi prochainement pour voir comment cette opération a évolué à travers la RDC. Merci beaucoup d'avoir été les nôtres.
Merci, Nicole. Ça a été un plaisir de pouvoir venir pour la première fois dans vos studios. Et je salue encore une fois vos auditeurs.
Merci, à la prochaine.
Okapi, les institutions, c'est facile à comprendre.